conversation urbaine et architecturale, Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.
Bonjour, je reçois aujourd'hui David Abrias, directeur général du groupe Cardam et président du pôle architecture. Alors, Cardam, j'ai cru comprendre que c'était un groupe national avec plusieurs pôles. Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus les différentes thématiques que vous développez dans le groupe ?
Oui, bien sûr. Bonjour Myriam. Donc Cardam, c'est effectivement un groupe national qui est présent dans toutes les grandes villes de France et qui déploie plusieurs métiers autour de l'immobilier et de l'architecture, donc des métiers de conseil, des métiers d'architecte, des métiers de designer d'espace.
Et le digital est a une grande part dans vos métiers
et
aussi.
Le digital est un métier qui prend une importance de plus en plus grande dans le groupe, absolument.
Alors là, on va descendre sur le plancher des vaches, puisqu'on va parler du cradle to cradle, C2C. Alors, pour être, les anglicismes ne sont pas toujours appréciés, mais vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est ce C2C ?
Alors oui, on va essayer de le faire en français. Donc le C2C, en français, on dit l'économie circulaire, en fait. C'est beaucoup plus simple. Ça veut simplement dire qu'on inscrit
le cercle vertueux,
on met une cyclicité, c'est-à-dire qu'on a un peu tendance, nous autres êtres humains, à faire des projets en mode linéaire, c'est-à-dire qu'on conçoit quelque chose et puis on ne sait pas ce que ça devient après. Le C2C, ça veut dire qu'on prend en compte le cycle de vie du produit et sa réutilisation future, ce qui n'est pas forcément le cas.
Alors on y pense évidemment dans, on va dire, en tout premier lieu dans l'immobilier de bureau, on se dit les cloisons amovibles, les faux plafonds, ça c'est une des premières choses sur lesquelles on se dit tiens, on va le mettre de côté, on va faire attention, mais il y a d'autres métiers sur lesquels on peut être aussi vertueux.
Alors il y en a plein. Alors déjà historiquement le C2C c'est affecté aux produits en fait. À l'origine c'est fait pour des produits, ça n'a pas été conçu pour le bâtiment, donc il y a une labellisation pour des produits. On a des produits qui sont ou qui ne sont pas cradle to cradle, c'est-à-dire capable de réintégrer un cycle de valorisation après. Donc le bâtiment c'est fait de différents composants et chacun de ces composants peut potentiellement être utilisé. Donc il y a deux grandes catégories, il y a ceux qui sont du domaine de la biosphère, donc c'est des choses qui vont réintégrer la décomposition et les cycles naturels, notamment pour les matériaux biosourcés. Et puis il y a la technosphère, donc ce qui va réintégrer un cycle industriel pour être soit réutilisé, revalorisé, recyclé ou à la fin jeté. Et on essaie de réduire cette part de déchets, exactement.
Alors, ça c'est très bien et je dirais qu'on va peut-être développer quelques exemples. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les industriels sont sensibles à cette thématique et produisent d'ores et déjà des matériaux qui sont, on va dire, à 80%, 90% recyclables?
Alors, ils le sont et puis ils vont l'être d'autant plus. Je vois, Myriam, votre sourire que vous n'y croyez pas vraiment.
Bah, pas vraiment pour l'instant.
Mais c'est quand même une tendance de fond. Le cradle to cradle, c'est un mouvement qui existe depuis la fin des années 90, donc c'est quand même pas quelque chose de très récent. Qui a été modélisé par un ingénieur allemand et un architecte américain. Et je vous le disais, plutôt pour le produit. Aujourd'hui, cette démarche, elle commence à titiller les industriels, d'une part parce que c'est obligatoire pour un certain nombre de produits.
Il y a une réglementation ? Pas encore ?
Il y a une réglementation dans l'industrie. Par exemple, quand vous faites une voiture, il faut que les composants d'une voiture soient recyclables à hauteur de 95%. C'est obligatoire. Donc les gens de l'industrie commencent à se dire que...
Y compris les plastiques ?
Tout peut rentrer dans un circuit de revalorisation derrière, alors qu'il est plus ou moins...
Mais qui coûte en énergie, parce qu'aujourd'hui, pour recycler, pour transformer cette matière pour qu'elle soit recyclée, il faut produire avec peut-être plus d'énergie. Donc le bilan carbone, il n'est peut-être pas formidable.
Alors ça dépend de quelle énergie on utilise, et puis c'est toujours plus intéressant de recycler un produit en termes de bilan carbone que de refaire du neuf. C'est-à-dire si vous prenez votre voiture, vous la jetez et vous en faites une nouvelle après... Ça reste intéressant de réutiliser les matériaux de la première, même si la transformation, vous avez raison, peut consommer de l'énergie.
Je vous ramène sur l'immobilier. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, lorsque j'ai cru comprendre, vous m'avez donné un exemple sur des industriels qui utilisaient, par exemple, ou pas, des fenêtres en PVC, des fenêtres en aluminium. Aujourd'hui, par exemple, ces deux produits sont très utilisés dans le bâtiment en France. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'ils sont potentiellement réutilisables à l'infini ou...
Alors, ils le sont s'ils ont été conçus pour ça, ils ne le sont pas tous. tous. Certains industriels aujourd'hui conçoivent des produits de façon à pouvoir les déconstruire et réutiliser les composants et les valoriser. D'autres ne le font pas. Quand vous vous demandiez tout à l'heure s'ils allaient être bientôt motivés à le faire, la législation est importante là-dessus. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'on a fait beaucoup d'efforts en France et en Europe sur l'optimisation énergétique des bâtiments. Donc, il y a eu la RT 2012, il y a eu tout un tas de labels qui sont
maintenant 20 et moins 20%, etc.
Voilà, exactement. On est en train de travailler sur ce qui va remplacer la RT 2012, qui sera là, on ne sait pas trop quoi, en 2020, et qui se préfigure par une expérience qui s'appelle E+, C moins. Vous avez dû entendre parler de ça. Donc le E+, c'est de l'optimisation énergétique. Le C moins, c'est de la diminution de l'empreinte carbone. Mm-hmm. Et la diminution de l'empreinte carbone, ce n'est pas grand-chose d'autre que de l'économie circulaire. C'est la capacité de réutiliser les bâtiments. Donc vous voyez, cette notion, elle est quand même en train d'arriver. Et elle va arriver...
Donc 2020, c'est demain.
Par la motivation et puis par la contrainte réglementaire qui est en train de se mettre en place, absolument.
Alors, ça veut dire c'est forcer quelque part les industriels à être justement dans cette thématique-là. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire en sorte que ce cycle puisse être élégant, puisse être esthétique, puisque je crois comprendre que il y a certains territoires où le fait d'utiliser des produits recyclés donne le sentiment quelque part qu'on est qu'on donne ou qu'on utilise dans le bâtiment des matériaux au rebut ou voilà, c'est peut-être un peu dégradant, on va dire.
Alors, je vais peut-être vous donner un contre-exemple. C'est que même si la notion de cradle to cradle est quelque chose qui a été modélisé récemment, ça reste du bon sens quelque part. Ça fait bien longtemps qu'on se doute qu'il faut réinjecter ce qu'on a construit dans un cycle d'utilisation. Et si vous prenez un exemple sur Paris, prenez un bâtiment haussmannien. C'est génial, un bâtiment haussmannien. Ça a eu plusieurs usages. Ça a fonctionné sous Haussmann en logement, mais ça peut se reconvertir en bureau très facilement. Ça fait partie de cette démarche qui consiste à réutiliser ce qui existe plutôt que de le casser. Alors, je ne sais pas si vous trouvez qu'un bâtiment haussmannien, c'est cheap. Moi, je
ne
trouve pas.
Bah, évidemment que non, mais il existe malheureusement encore des tours, des bars qui, dans le cadre d'opérations en rue, sont parfois démolis au lieu d'être utilisés parce que malheureusement, aujourd'hui encore, enlever l'amiante, le plomb, etc., coûte de l'argent. Et est-ce qu'on peut considérer que le coût est plus important que, je dirais, la durabilité du bâtiment pendant des années? On ne fait pas toujours le calcul sur le long terme, on fait le calcul sur le court terme.
Alors, on a coutume de dire que la construction du bâtiment, ça coûte entre 15-20% et que c'est l'exploitation qui coûte cher, d'ailleurs. Alors, c'est qu'en partie vrai, parce que ce qui coûte cher dans un bâtiment, c'est surtout les gens qui sont dedans. Donc, la première préoccupation, c'est quand même que les gens qui sont dedans soient bien, sinon l'investissement est moins intéressant. Après, cette notion d'utilisation du bâtiment dans la durée, elle est un peu prise en compte aujourd'hui par les labels existants. Mais par exemple, la RT 2012 ne prend pas en compte l'utilisation énergétique de votre ordinateur dans votre bâtiment. Donc ça prend en compte qu'une partie de tout ça. Donc l'idée et le concept même, c'est pour ça que c'est presque plus aujourd'hui une approche philosophique, quelque chose qui est vraiment sanctionné par un label, c'est de penser en amont que le bâtiment sera déconstruit. On le sait qu'il sera déconstruit, mais aujourd'hui, on n'a pas cette approche-là dans la technique qu'on a de conception. Donc toute l'idée, c'est d'y penser avant, pour que ce soit valorisable après, et on utilise de plus en plus le concept d'urban mining.
En français.
Voilà, en fait, un bâtiment, qu'est-ce que c'est à part une mine de matières premières pour le futur? Et en Europe, on n'a pas des ressources illimitées, on sait, on n'est pas des grands producteurs de matières premières.
C'est ça, on disait il y a quelques années, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Donc ça veut dire que les idées appliquées au bâtiment, ça pourrait être quelque chose de l'ordre de je conçois un bâtiment où je sais d'ores et déjà qu'il est réutilisable à 80%.
Voilà, alors vous savez, quand on livre un bâtiment, on livre à la fin ce qu'on appelle des DOE, hein, le dossier qui explicite tout ce qu'on a mis dans le bâtiment. Et le principe du cradle to cradle, c'est de lier à ce document final les principes de déconstruction et de réemploi des différents composants du bâtiment. Donc ça veut dire qu'un bâtiment, à la fin, au lieu d'avoir une valeur nulle et éventuellement de coûter d'argent parce qu'il faut le démolir, on peut, élément par élément, le valoriser et donc retrouver pour l'investisseur ou le propriétaire une valeur de ce bâtiment.
Alors, on a parlé de la valorisation. Est-ce que à un moment donné, un utilisateur pourrait se dire, au fond, mon bâtiment vaut plus cher parce qu'il est utilisable, ou il a une meilleure image de marque, on va dire, parce qu'il est utilisable, c'est-à-dire je me vends mieux parce que mon bâtiment est vertueux?
Mais exactement. Enfin, aujourd'hui, on a assisté en France, notamment à Paris, à la course au label, le course au label environnementaux qui venait valoriser le bâtiment pour des raisons d'image, pour des raisons de coûts d'exploitation. Et plus le temps va passer, plus les matières premières, on imagine, hein, le coût va se
coûter cher.
Mm-hmm. Et donc un bâtiment, ça devient une mine de matières premières qu'on va pouvoir valoriser à la fin et qui va pouvoir rentrer dans un bilan. Donc aujourd'hui, un propriétaire qui raisonne en TCO, un coût total, hein, Total Cost of Ownership, il va pouvoir rentrer une ligne qui sera la valorisation de son bâtiment à la fin, voilà, comme ce qu'on faisait à une époque avec les bouteilles, on l'a ramené, on récupérait 50 centimes. C'est ça, aujourd'hui dans un bâtiment, on emprunte quelque part aux générations futures les matériaux qu'il constitue, et ça va donner des business models qui vont être très différents, parce qu'on commence à voir aujourd'hui chez certains fabricants de la location, par exemple des cabines d'ascenseurs peuvent se louer. Une façade peut se louer. Et il y a des cycles de vie dans le bâtiment qui sont différents. La structure va durer 30 à 40 ans. La façade va durer 15 à 20
ans.
L'intérieur va durer 5
à
10 ans, etc. Et donc, on va pouvoir gérer ces différents cycles de façon un peu dissociée.
Ça veut dire qu'on va changer la garantie décennale des architectes,
hein. Ça va changer énormément de choses. Ça veut dire que ce qui est aujourd'hui de l'investissement ne le sera plus forcément. Les principes de garantie... effectivement, tout ça d'ailleurs c'est très lié, ça fait partie des réflexions qu'ont les assureurs qui liées au BIM, parce qu'évidemment le BIM est partie intégrante de ce processus-là.
Bien sûr, là pour le coup, oui, c'est une vraie obligation.
Voilà, et on imagine pouvoir intégrer dans des maquettes BIM tous ces principes de déconstruction.
D'accord, et
bâtiment.
Le cycle de tous les matériaux et leur réutilisation.
Exactement.
Pour les fenêtres, les portes, etc.
Exactement.
Est-ce que ça veut dire que quelque part, c'est pour un industriel ou pour un chef d'entreprise une manière formidable d'attirer des jeunes diplômés parce qu'il montre son savoir-faire en la matière ?
On a pu constater, alors c'est un mouvement qui fonctionne beaucoup mieux, enfin qui a plus d'historique en Europe du Nord, hein, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique. On commence à voir ça en France. On voit quelques, alors j'ai pas cité de nom, hein, mais on a quelques grands groupes de l'immobilier qui ont fait leur siège récemment à Paris selon cette démarche. Bien sûr, parce que ce sont des gens très vertueux, mais aussi pour pouvoir parler aux jeunes notamment. Et il y a eu il y a très peu de temps des déclarations de jeunes diplômés de grandes écoles qui souhaitent intégrer des entreprises qui ont cette préoccupation du futur. Et c'est la meilleure façon de témoigner de ce type de préoccupation, et j'espère que ça créera des émules par incitation plutôt que par une contrainte réglementaire.
Alors, on parlait là du bâtiment, et sur l'image de la ville, en quoi l'image de la ville peut être là aussi liée à ce cycle ?
L'image de la ville, le gros problème des villes
du
futur,
la
grande échelle, un problème quand même structurant dans tout ça, c'est la mobilité. L'économie circulaire, ça veut dire des circuits courts, ça veut dire du réemploi local.
Voilà, ça veut dire le dernier kilomètre.
Ça veut dire le dernier kilomètre, ça veut dire beaucoup de choses en termes de flux, et ça, c'est déjà un impact énorme sur la ville. Après, au-delà de l'aspect technique et économique, le cradle to cradle, c'est quand même de rentrer dans sa réflexion toute la question de l'usage, et l'usage interne et l'usage externe d'un bâtiment. Donc c'est effectivement quelque chose qui peut, de façon homothétique, s'envisager au niveau d'une ville, mais dont le premier impact... sera, je pense, la question des flux.
Alors, la question des flux, de fait, parle aussi, évidemment, de la mobilité qui, aujourd'hui, est un enjeu extrêmement important entre la trottinette, le vélo, le scooter, la voiture, etc., etc. Comment fait-on pour pouvoir, à l'échelle d'une entreprise, avoir sur ce point-là, par exemple celui de la mobilité et du télétravail, justement une accroche importante par rapport non seulement à l'entreprise, mais par rapport à ce bâtiment qui est quand même le siège de l'entreprise, puisque aujourd'hui certains groupes évitent d'avoir des sièges, le siège, mais plutôt ont des micro-implantations, y compris pour des sièges parisiens qui n'existent plus.
Mais, alors... dans tout ça, en fait, ce que vous avez évoqué, c'est sûr que les mobilités, on s'en rend compte, ça change tous les jours. Les trottinettes, ça a déferlé sur les métropoles comme une vague. Je crois que ce que les entreprises intègrent, c'est qu'elles vont avoir besoin d'être extrêmement agiles. Elles vont avoir besoin de pouvoir se reconfigurer en permanence. On sait que les métiers, dans 10 ans, il y en a à peine une vingtaine de pourcents qui existent aujourd'hui. Et ça, c'est réellement dans l'ADN de la démarche Cradle to Cradle. C'est pour ça que je vous parlais de mon bâtiment haussmannien tout à l'heure. Il n'a pas été fait pour ça, mais il se trouve qu'il a une forme de résilience et qu'il peut être réutilisé de plein de façons différentes. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à intégrer, qui n'a pas été fait dans des bâtiments des générations précédentes. C'est pour ça qu'on a dû beaucoup démolir, c'est pour ça qu'on a du mal à désamianter. C'est parce que précisément, cette agilité du bâtiment n'était pas considérée. Aujourd'hui, c'est une demande très forte des entreprises qui sont face à ces incertitudes de marché. Il faut pouvoir se reconfigurer en permanence et avoir soit regrouper du monde, soit les éclater en fonction des impératifs de leur business model.
Ça veut dire que le groupe Cardam est en pointe sur ce genre d'innovation et que vous proposez quelque part à vos clients une manière d'interagir et de réfléchir sur leurs produits, sur ce que vous allez leur apporter en termes de philosophie, d'usage. Vous l'avez intégré ?
Je vous le disais, le coût principal d'un bâtiment, c'est les gens qui sont à l'intérieur. Donc c'est d'eux, en priori, qu'il faut se préoccuper. Le reste en découle. Et c'est, je crois, notre ADN de réfléchir aux solutions qui vont apporter du bien-être et de l'efficacité aux équipes humaines.
Jolie philosophie. Merci, David Abrias. Merci à vous.
Merci, Myriam.
Conversation urbaine et architecturale. Myriam Schwartz, architecte et urbaniste.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par Cardam, l'engagement d'un groupe innovant, un savoir-faire qui allie conseil, architecture et aménagement.